Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale s'intéresse aux femmes et à la science, ainsi qu'aux initiatives novatrices qui cherchent à rectifier leur sous-représentation dans ce domaine pour ne plus priver le monde de la moitié de l'intelligence de l'humanité, comme par exemple le prix Fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Nous entendrons également le témoignage d'une de ses lauréates, la chercheuse marocaine Raja Cherkaoui El Moursli. La dimension du genre dans la science et la technologie est devenue l'un des sujets les plus débattus dans le monde actuel. Bien que les femmes soient de plus en plus nombreuses à s'inscrire à l'université, trop peu d'entre elles réussissent à faire carrière dans la recherche scientifique. Un récent rapport de l'UNESCO démontre d'ailleurs que de nombreux talents sont gâchés lorsque les filles se détournent des carrières en sciences et technologies ou lorsque les femmes scientifiques se découragent en raison d'attitudes discriminatoires. On écoute Flavia Schlegel, sous-directrice générale pour le secteur des sciences exactes et naturelles à l'UNESCO.
Pour le moment, c'est à peu près seulement 30% des chercheurs du monde qui sont des femmes. On trouve à peu près 46% en Asie centrale et par contre seulement 20% en Asie du Sud et du Grèce. Et
on sait que dans beaucoup de pays en développement, bon, l'accès à l'éducation tout court est très difficile, mais par contre dans les pays développés, on a la chance de pouvoir vraiment profiter d'une très bonne éducation. Alors comment se fait-il que les femmes sont moins représentées dans ces filières scientifiques alors qu'elles reçoivent la même éducation que les hommes?
C'est une question très intéressante. Par exemple, en Suède, les femmes forment la majorité, à peu près 60% des étudiants, mais à la fin, on a seulement 30% des chercheurs. Cette tendance est similaire dans toutes les régions du monde et ça relève la difficulté pour beaucoup de femmes de concilier les ambitions de carrière avec des responsabilités familiales. Mais il y a aussi certaines représentations dans presque toutes les cultures, dans la littérature, pour la jeunesse ou dans les livres scolaires où on suggère que les femmes sont moins aptes à faire des sciences que les hommes et ça engendre une certaine autocensure des filles dans leur choix d'orientation, dans leurs études.
Dans votre travail, vous avez vu des exemples de meilleures pratiques ou d'initiatives originales lancées par des pays ou d'autres institutions?
On a un bon exemple à Kenya. Ils sont en train d'organiser des cours d'été pour les jeunes filles entre 10 et 15 ans pour les encourager à étudier la science et la technologie. Mais seulement encourager les jeunes filles à apprendre les sciences, c'est une approche insuffisante et pour ça, c'est aussi une défi tellement difficile. C'est vraiment, il y a d'autres facteurs qui influencent la décision, c'est la participation des femmes à la prise de décision, le potentiel pour les femmes d'accéder aux ressources, l'indépendance économique, le soutien de la femme à la vie domestique. Comme ça, il y a toute une série de questions de société et politique qui sont à aborder si on veut améliorer le taux des femmes dans les sciences.
Vous avez évoqué cette initiative au Kenya qui cible donc la tranche d'âge des 10-15 ans. Est-ce que cette période de l'adolescence vous semble être particulièrement cruciale pour sensibiliser les filles?
Toutes les études suggèrent c'est l'encouragement de ces jeunes filles dans cet âge de 10 à 15 ans. C'est extrêmement important. Si nous réussissons à leur encourager à au moins s'intéresser ou penser à prendre cette direction, ça donne une bonne base pour que plus tard, ils entrent dans l'université et ils vont choisir une carrière de scientifique. Mais comme je viens de dire, ce n'est pas la seule raison, mais c'est une raison très, très importante. Si la société ne permet pas d'encourager ces jeunes filles, ça devient très, très difficile. C'est une question multifactorielle que seulement une raison pour laquelle une jeune fille ou une femme devient une chercheuse ou non.
Belly obtiendra une bourse pour étudier les géminivirus transmis par les insectes. Et Yasmine recevra un prix Nobel. Mais on ne sait pas encore lequel. Parce que la science a besoin des femmes, la Fondation L'Oréal et l'UNESCO récompensent les plus talentueuses d'entre elles depuis 15 ans.
Pour braquer les projecteurs sur la contribution des femmes scientifiques, l'UNESCO a établi un partenariat avec la Fondation L'Oréal. Partenariat né d'une convergence de vues sur le rôle des femmes dans le développement des connaissances scientifiques. Grâce à lui, chaque année, le travail de 5 chercheuses émérites est récompensé et les initiatives se multiplient pour appuyer les jeunes générations de femmes scientifiques. Les explications de Sonia Barry, chef de la section des politiques scientifiques et secrétaire exécutive du prix Fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science.
C'est un prix qui a été créé il y a de cela maintenant 17 ans, en 1998. Il vise à mettre à l'honneur des femmes exceptionnelles dont les recherches contribuent à faire avancer la science. L'idée, c'est surtout de faire en sorte que les femmes puissent elle aussi, comme les hommes, contribue à améliorer les connaissances. C'est surtout faire en sorte que, à travers ce prix, on change les mentalités. On contribue à combattre les préjugés, les stéréotypes qui sont discriminants à l'égard des femmes. On dit souvent, on pense souvent que les femmes ne sont pas faites pour les sciences, que les hommes ont un esprit plus scientifique, plus mathématique. Ce sont des stéréotypes donc socioculturels. Ils n'ont rien à voir avec la région ou les pays. On peut pas dire que dans les pays en voie de développement, ces stéréotypes existent plus que dans les pays développés. Ils existent partout et ce programme contribue justement à les combattre. C'est pas facile, mais justement, en donnant une grande visibilité aux femmes qui ont été excellentes dans leurs recherches et qui ne sont pas toujours connues, en les faisant connaître auprès non seulement de la communauté scientifique mais aussi du grand public, on combat ces stéréotypes et ces préjugés, en en faisant des modèles aussi pour les jeunes filles qui, elles, n'osent pas toujours s'orienter vers des carrières scientifiques parce qu'elles sont aussi un petit peu victimes de ses préjugés. Donc l'idée, c'est de ne pas se priver de la moitié des cerveaux et de l'intelligence humaine, puisque nous avons aujourd'hui des défis, de grands défis au niveau du développement durable. Il faut faire face à des problèmes aussi importants que le changement climatique, la perte en biodiversité, des problèmes d'énergie. Donc là, il faut la mobilisation de toutes les intelligences. Et on ne peut pas laisser de côté la moitié de l'humanité.
Avez-vous eu des retombées sur l'impact du prix dans la vie de ces femmes scientifiques et aussi des plus jeunes, car il y a aussi un programme de bourse à l'intention de jeunes scientifiques?
Alors, le programme des bourses est aussi un programme très important. Là, il s'agit surtout d'encourager, l'encouragement des filles. Depuis le début du programme, quelque chose comme 2170, je crois, jeunes chercheuses ont obtenu une bourse pour poursuivre leurs travaux. Alors, ça peut être au niveau doctoral comme au niveau postdoctoral. C'est quand même important. Et ces jeunes filles, à leur tour, jouent un rôle de modèle pour les autres jeunes filles. Donc, on sait qu'au niveau des pays, il y a un impact parce qu'il y a une grande communication autour du prix, autour des bourses dans les pays et que ça encourage d'autres jeunes à continuer leur carrière ou alors à choisir la voie scientifique. Donc ça a un impact en termes de modèle, en tout cas, par rapport à l'image qu'on peut se faire de la science et des femmes.
Outre l'octroi du prix, est-ce que le programme comprend aussi une dimension de suivi pour épauler les carrières de ces femmes qui ont été récompensées?
Oui, alors il y a donc le prix d'un côté qui récompense 5 femmes exceptionnelles, une par continent. En plus de cela, il y a les bourses. Il y a un programme depuis cette année qui s'appelle International Raising Talent, ou talent prometteur de demain, qui permet de sélectionner parmi les boursières, parmi les jeunes chercheuses, celles qui ont un grand potentiel, un avenir, justement pour les accompagner à aller toujours plus loin, dans l'idée éventuellement qu'elles deviennent des lauréates, qu'elles aient elles-mêmes un jour le prix, c'est-à-dire pousser vraiment l'excellence et les encourager pour aller toujours plus loin dans leurs recherches. Donc les jeunes chercheuses, elles reçoivent une bourse complémentaire de 15 000 euros, ainsi qu'une formation, un coaching qui leur permet de s'améliorer, de parler aux médias, de chercher d'autres fonds pour leurs recherches, de participer à des conférences internationales. Comme vous le savez peut-être, parmi les 87 lauréates du prix que l'on a eu jusque-là, deux d'entre elles ont reçu le prix Nobel, les professeurs Elizabeth Blackburn et Ada Yonath. L'idée, c'est quand même d'aller très loin. Avec très peu de femmes dans le monde ont reçu des prix Nobel en sciences. Les chiffres le démontrent, c'est assez terrible, puisque je crois que sur 195 prix Nobel en physique, il n'y en a eu que deux qui étaient des femmes. La différence entre hommes et femmes est énorme, et un prix comme celui-là cherche justement à rompre avec cette situation, à faire en sorte que les femmes, les chercheuses, aillent de plus en plus loin dans l'excellence.
Une des 5 lauréates à avoir obtenu cette année le prix Fondation L'Oréal UNESCO, Raja Cherkaoui El-Moursli a été récompensée pour sa contribution majeure à l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de la physique, la preuve de l'existence du boson de Higgs, la particule responsable de la création de masse dans l'univers. Élevée au Maroc avant d'obtenir son doctorat à l'Université de Grenoble, elle a bénéficié dès son plus jeune âge de l'appui et des encouragements de sa famille et de ses professeurs qui ont vite reconnu ses aptitudes scientifiques. Mais cela ne l'empêche pas de considérer avec lucidité les nombreux défis que doivent affronter les femmes scientifiques.
Ce que j'ai remarqué, c'est un frein, c'est l'éducation, la culture. Souvent, ça ne vient pas, les gens disent de l'homme, ça ne vient pas de l'homme, ça vient de la maman. Souvent, les mamans n'élèvent pas leurs filles comme leurs garçons. Le garçon, c'est un homme, les filles, bon, c'est une fille qu'on élève pour la marier. Je pense que ça vient de la femme. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman très intelligente qui, elle, même mon père, n'a jamais fait de différence pour eux. Il fallait que tout le monde soit responsable et un travail soit indépendant. Mon père, à l'âge de 9 ans, me parlait comme si j'allais me marier à 10 ans. Il me dit, il faut que tu apprennes un métier, que tu sois indépendante, même si tu te maries, c'est quelque chose à toi seule, dans ton cœur. Et je pense que ça, c'est très important. C'est de l'éducation qu'on donne dans les familles. Il faut qu'elles changent. Il faut qu'on donne la même chance aux filles et aux garçons. Bien sûr, chacun va être doué pour ça ou pour ça, mais qu'on laisse la chance, qu'on ouvre les portes. C'est seulement le seul obstacle. Je vous assure que les gens parlent de beaucoup de choses. C'est pas vrai. C'est l'éducation. On ancre dans l'esprit de la jeune fille qu'elle se prépare pour se marier, faire une famille. Bien sûr qu'une femme est là pour faire une famille. Heureusement, parce que regardez, si j'avais ma carrière seule, rien d'autre en face, c'est quand même un peu frustrant. Il faut faire les deux et il faut essayer de partager sa vie, faire une balance entre la carrière et la famille. C'est très important. C'est un équilibre à trouver qui n'est pas facile. Hein. Pas du tout facile. Il fallait que je fasse un effort énorme. Par exemple, j'avais des bébés, je m'arrangeais pour leur apprendre à dormir tôt pour que moi je puisse me mettre au travail le soir. Mais rester à travailler jusqu'à 1h du matin pour pouvoir avancer.
Quelles sont certaines des stratégies ou des mesures que vous penseriez sembleraient être bonnes à mettre en œuvre, par exemple au sein des institutions universitaires ou ailleurs, pour aider les jeunes filles à vraiment s'épanouir et à ne pas se mettre des freins?
Alors, quand il y a une fille douée, la première chose c'est essayer ce que fait L'Oréal. Je trouve que c'est extraordinaire, leur donner une bourse. Quand une famille ou un mari ou un fiancé voit que sa fiancée ou sa femme ou sa fille a eu un prix ou bien a eu une bourse extraordinaire, dit, ah, elle sort, là ils freinent, ils respectent. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut donner plus d'opportunités aux jeunes filles. C'est-à-dire que quand il y en a une qui sort du lot, il faut vraiment l'aider. Par exemple, quand je vois une jeune fille, ce que je dois faire en tant que professeur, en tant qu'encadrant, en tant que responsable de labo, c'est mon travail. Je dois, et c'est chaque fois que je vois un étudiant qui sort du lot, je dois vraiment le suivre.
Est-ce qu'il y a le parcours d'une femme scientifique qui vous a particulièrement inspirée pendant votre carrière ou vos études?
Ah oui, bien sûr. Quelqu'un m'a offert un livre sur la vie de Marie Curie. Et je trouvais que cette femme qui venait d'un pays qui n'était pas français au départ, qui s'est installée, comment elle a sa carrière, sa modestie, c'était extraordinaire. Elle, dans sa carrière, elle ne pensait pas arriver là où elle est arrivée. Elle ne comprenait pas aussi. Et depuis, je me suis dit, je travaille. Il faut aussi voir que dans l'université marocaine, pas seulement marocaine, hein, plusieurs pays, on ne valorise pas. Souvent, les gens me voyaient travailler et me disaient, bon, je vois pas ce que tu cherches, hein, personne ne va faire attention à ça. Et moi, je le faisais vraiment par amour. Hein. Mes étudiants, après, m'ont appelé la militante de la recherche, ils se moquaient tous de moi. Les journalistes m'ont repris au Maroc et ma famille respectée. Mes enfants, très jeunes, s'étaient habitués à « Maman va voyager, on va chez mamie ». Et quand j'étais là, j'étais toujours là, à leur formation, par fois, j'avais des journées affreuses parce qu'il y avait le cours de piano, le cours de guitare, je sais pas quoi. J'étais toujours dans ma voiture. C'était fatigant, mais le résultat est extraordinaire quand on voit ces enfants épanouis avec des études extraordinaires. C'est un cadeau. Et quand on reçoit un prix, je pense que quelqu'un qui travaille, un jour, il y a une reconnaissance. N'importe laquelle, mais la reconnaissance, elle arrive.
Et elle est aussi très importante pour motiver et pour donner une inspiration aux générations plus jeunes.
Ça, c'est sûr. Dès que les médias au Maroc l'ont appris, j'ai eu beaucoup d'étudiantes qui m'ont amené beaucoup de fleurs. Et celles que j'encadrais me disaient, on est fiers d'être vos étudiants. Et je pense que c'est important. Pour la femme en général, hein, pour la jeune fille. Je leur ai dit persévérer parce que vous savez très bien que la recherche n'est pas évidente. On est à beaucoup dans le monde. Hein. Parfois on cherche, on ne sait même pas ce qu'on cherche. On sait ce qu'on cherche, mais on n'est pas sûr de le trouver par contre. Et un jour, quand même, on est récompensé. Et ça, c'est extraordinaire.
Et c'est avec Raja Sherkaoui El-Moursli que se referme ce magazine Escale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet et les podcasts, les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.